Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science Chrétienne Indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Lecture alternée, Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible. Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» L'Éternel lui dit: « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit: « Une verge. » L'Éternel dit: « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Marie Baker Eddy. Moïse amena un peuple à adorer Dieu en tant qu'esprit, non en tant que matière, et il mit en lumière les sublimes capacités humaines de l'être conférées par l'entendement immortel. Le législateur hébreu, qui n'avait pas la parole facile, désespérait de faire comprendre au peuple ce qui lui serait révélé. Lorsque, sous l'impulsion de la sagesse, Moïse jeta son bâton à terre et qu'il le vit se transformer en un serpent, il s'enfuit devant lui. Mais la sagesse lui commanda de revenir et de saisir le serpent. Alors sa crainte disparut. Cet incident démontre la réalité de la science. Il fut prouvé que la matière n'est qu'une croyance. Le serpent, le mal, au commandement de la sagesse, fut détruit par la compréhension de la science divine et cette preuve fut un bâton sur lequel il put s'appuyer. L'illusion de Moïse n'eut plus le pouvoir de l'effrayer lorsqu'il découvrit que ce qu'il voyait apparemment n'était en réalité qu'une phase de la croyance mortelle. Il fut démontré scientifiquement que la lèpre était une création de l'entendement mortel et non un état de la matière, lorsque Moïse mit une première fois sa main dans son sein et l'en retira blanche comme neige, atteinte de la maladie redoutée, et qu'aussitôt il fit reprendre à sa main son état naturel par le même simple procédé. Dieu avait atténué la crainte de Moïse par cette preuve en science divine, et la voix intérieure devint pour lui la voix de Dieu, qui dit « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Et il en fut ainsi dans les siècles qui suivirent, quand la science de l'être fut démontrée par Jésus qui fit voir à ses disciples le pouvoir de l'entendement en changeant l'eau en vin, et leur enseigna à saisir des serpents sans qu'ils leur fassent de mal, à guérir les malades et à chasser les maux comme preuve de la suprématie de l'entendement. Nous sommes parfois induits à croire que les ténèbres sont aussi réelles que la lumière, mais la science affirme que les ténèbres ne sont qu'un sens mortel d'absence de la lumière dont l'approche fait perdre aux ténèbres l'apparence de la réalité. De même, le péché et le chagrin, la maladie et la mort, sont l'absence hypothétique de la vie, Dieu, et s'enfuient comme des fantômes de l'erreur devant la vérité et l'amour. Le christianisme, tel que Jésus l'enseignait, n'était pas un credo, ni un système de cérémonie, ni une dispensation spéciale d'un Jéhovah ritualiste, mais c'était la démonstration de l'amour divin qui chasse l'erreur et guérit les malades, non pas simplement au nom du Christ, la vérité, mais par la démonstration de la vérité, comme il en va nécessairement dans les cycles de la lumière divine. La philosophie humaine a fait Dieu semblable à l'homme. La science chrétienne fait l'homme semblable à Dieu. La première est erreur, la seconde est vérité. Enveloppé dans la brume de l'erreur, l'erreur de croire que la matière peut être intelligente pour faire le bien ou le mal, nous ne pouvons avoir de clairs aperçus de Dieu que lorsque la brume se disperse ou qu'elle devient si légère que nous apercevons l'image divine dans quelques paroles ou actions qui indiquent l'idée vraie. La suprématie est la réalité du bien, le néant est l'irréalité du mal. Les Écritures impliquent que Dieu est tout en tout. Il s'ensuit que rien ne possède de réalité ni d'existence hormis l'entendement divin et ses idées. Les Écritures déclarent aussi que Dieu est esprit. Par conséquent, dans l'esprit tout est harmonie, il ne peut y avoir de discordance. Tout est vie et il n'y a pas de mort. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Dieu n'est pas le créateur d'un entendement mauvais. En réalité, le mal n'est pas entendement. Il nous faut apprendre que le mal est la terrible tromperie, l'effroyable irréalité de l'existence. Le mal n'est pas suprême, le bien n'est pas impuissant. Les prétendues lois de la matière ne sont pas non plus au premier rang et la loi de l'esprit au second. Sans cet enseignement, nous perdons de vue le Père parfait ou principe divin de l'homme. Le corps n'est pas au premier rang et l'âme au dernier, et le mal n'est pas plus puissant que le bien. La science de l'être rejette ce qui est manifestement impossible, tel que l'amalgame de la vérité et de l'erreur dans la cause ou dans les faits. La science sépare l'ivraie du froment à l'époque de la moisson. La science de l'entendement détruit tout mal. La vérité, Dieu, n'est pas l'auteur de l'erreur. Le péché, la maladie et la mort doivent être classés comme effets de l'erreur. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage, hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe sauf le bien que Dieu accorde. Dieu est ce que le proclament les Écritures. Vie, vérité, amour. L'esprit est principe divin, et le principe divin est amour, et l'amour est entendement. Et l'entendement n'est pas à la fois bon et mauvais, car Dieu est entendement. Par conséquent, il n'y a en réalité qu'un seul entendement parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. L'unique ego, l'unique entendement ou esprit, appelé Dieu, est individualité infinie qui donne toute forme, toute grâce et reflète en l'homme et les choses individuelles et spirituelles, la réalité et la divinité. Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la science divine sera universellement comprise, ces croyances n'auront aucun pouvoir sur l'homme, car l'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. La réalité spirituelle est le fait scientifique en toute chose. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.